le magazine des Nations Unies.
L'accord de la Saint-Sylvestre, toujours d'actualité à New York. La réunion convoquée sous la RDC en marge de la 72e session de l'ONU a réaffirmé la nécessité de la mise en œuvre intégrale de cet accord et de la publication rapide du calendrier électoral. L'ONU, toujours, la Journée internationale de la paix est célébrée le 21 septembre. Plusieurs manifestations ont eu lieu à travers la RDC. Et à Kinshasa, le représentant spécial adjoint David Gressley en a profité pour plaider en faveur des actions répondant aux attentes des populations congolaises. 7 millions d'enfants affectés par la crise dans le Kasaï, selon l'UNICEF. Cette agence de l'ONU et ses partenaires se mobilisent pour une assistance dans le domaine de l'éducation, de la nutrition et de la protection. Les détails avec le chef de la communication de l'UNICEF RDC, il est l'invité de ce magazine. Enfin, écoutez...
Nalingi Bino Mingi Bana ya Congo.
Vous allez découvrir la personne qui est derrière cette voix dans le portrait du magazine des Nations Unies. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Je le disais au sommaire, une réunion convoquée sur le processus électoral en RDC en marge de la 72e session de l'Assemblée de l'ONU s'est tenue mardi 19 septembre dernier à New York. Les participants à cette réunion ont réaffirmé le rôle incontournable de l'accord du 31 décembre 2016. La porte-parole intérimaire de la MONUSCO, Florence Marshall, est revenue mercredi à la conférence de presse hebdomadaire de l'ONU à Kinshasa sur le point clé de la rencontre de New York. Honoré Misenga Kalala.
Il s'agit d'une réunion de haut niveau à laquelle était représenté le gouvernement de la République démocratique du Congo. Outre la RDC, les participants à cette rencontre ont représenté l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Ils ont réaffirmé le rôle incontournable de l'accord de la Saint-Sylvestre et la nécessité de sa mise en œuvre intégrale en vue de baliser la voie pour un aboutissement heureux du processus électoral en RDC. Il a ainsi été décidé au cours de ce forum que les institutions susmentionnées soient impliquées dans ce processus électoral. Une équipe d'experts sera mise à contribution pour un appui à la Commission électorale nationale indépendante CENI au plan politique, financier, technique et logistique. Et concernant notamment la CENI, les participants attendent de cette institution la publication du calendrier électoral dans les meilleurs délais et l'allocation des budgets conséquents conformément à l'accord du 31 décembre.
Restons encore à l'ONU avec la célébration de la Journée internationale de la paix le 21 septembre de chaque année. Et pour 2017, le thème est « Ensemble pour la paix, respect, sécurité et dignité pour tous ». Des manifestations diverses ont eu lieu en RDC dans le cadre de cette journée et à Kinshasa, David Gressley, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, a fait un plaidoyer pour des actions qui répondent aux aspirations des Congolais. David Gressley au micro d'Honoré Misenga Kalala.
S'agissant du contexte de la République démocratique du Congo, ce jour présente une opportunité pour nous tous de penser aux solutions qu'il faut pour aboutir à l'obtention de la paix, la prospérité et la sécurité pour tous en RDC. C'est ici le lieu pour moi de demander à toutes les forces vives du pays de travailler ensemble pour aboutir aux résultats concrets qui répondent aux attentes des populations, surtout à l'est du pays et dans la région du Kasaï.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Vendredi 15 septembre dernier, 38 réfugiés et demandeurs d'asile burundais ont trouvé la mort dans les affrontements avec les forces de sécurité congolaises. Le HCR qui s'occupe de ces réfugiés donne sa version sur les circonstances de ces affrontements. Olivier Beer, représentant régional AI du HCR en RDC, est notre invité. Il est joint au téléphone par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Olivier Beer, bonjour.
Oui, bonjour.
Vendredi 15 septembre dernier, les affrontements ont eu lieu à Kamanyola au sud Kivu. Il y a eu plusieurs morts parmi les réfugiés et demandeurs d'asile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a plusieurs versions, mais ce que nous avons compris des faits tels qu'ils nous ont été exposés, 4 réfugiés ont été arrêtés par la police et le reste du groupe ont demandé où étaient ces personnes-là. À part après, le ton est monté entre les personnes qui réclamaient de voir les 4 qui avaient été arrêtés et la police qui a appelé des renforts. Les forces armées sont arrivées sur les lieux et là on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais cela a dégénéré et on a comptabilisé malheureusement 39 morts, dont 38 Burundais et un officier des forces armées congolaises et de nombreux blessés, plus de 90 blessés.
Olivier, généralement le ACR regroupe les réfugiés dans des camps aménagés et sécurisés. Pourquoi cela n'a pas été le cas à Kamanyola?
Le ACR regroupe les réfugiés qui sont à côté de la frontière pour leur propre sécurité et pour éviter également qu'ils ne soient infiltrés par des groupes armés. C'est le cas de la majorité des réfugiés burundais, dont 30 000 se trouvent dans le camp de Lusenda. Ceci étant dit, il y a la liberté de mouvement en République démocratique du Congo, c'est un droit du réfugié, et vous avez certains réfugiés qui ne vont pas dans les camps pour des raisons qui leur sont propres. Nous avons des réfugiés burundais à Kinshasa, nous en avons à Goma, nous en avons dans diverses localités du sud Kivu, du nord Kivu, etc. Donc ce ne sont pas tous les réfugiés qui sont dans le camp. Nous avons en République démocratique du Congo 43 000 réfugiés burundais et nous en avons 30 000 dans le camp de Lusenda.
Et est-ce que vous pouvez confirmer que les Burundais de Kamanyola ont le statut de réfugiés des demandeurs d'asile? Est-ce que les ACR peut les confirmer?
Je peux confirmer que pour le ACR, ces personnes ne souhaitent pas rentrer au Burundi et font état d'une crainte de persécution en cas de retour. Ces personnes ont été interviewées par la Commission nationale des réfugiés et ils ont été considérés comme réfugiés à condition qu'ils soient enregistrés biométriquement et relocalisés dans le camp de Lusenda à l'époque.
Et il serait combien exactement à
Kamanyola? 2005 ont été interviewés par la Commission nationale des réfugiés, mais nous comptons en ce moment à Kamanyola suite à l'incident 2492 qui sont dans un espace sur la rue en face de la base de la MONUSCO.
Une dépêche indique que l'agence, donc l'ACR, plaide pour une enquête afin de déterminer les circonstances de la mort de Burundais demandeurs d'asile. Qui va enquêter et dédommager les familles des victimes?
Oui, donc vous avez mentionné les Burundais demandeurs d'asile. Une fois encore, pour nous, le ACR, il y a parmi ces personnes des réfugiés, il y a parmi d'autres des demandeurs d'asile qui ne sont pas encore vus reconnaître le statut de réfugié, et puis il y a peut-être d'autres groupes arrivés récemment. Alors, nous pensons que suite à un événement comme cela, il y a lieu de se réunir avec le gouvernement pour justement parler de la question du dédommagement des victimes. Peut-être que certaines vont porter plainte. Et donc, par rapport à cela, il faudra en effet les dédommager. L'enquête va se faire par le gouvernement congolais.
Que proposent les ACR pour que de tels incidents ne se reproduisent plus dans l'avenir?
Ben, nous pensons qu'il faut que les forces armées, la police, etc., reçoivent des formations sur le droit des réfugiés. Et le ACR est prêt à accéder à de telles demandes sur l'importance de protéger des personnes qui trouvent asile en République démocratique du Congo et sur l'importance pour la République démocratique du Congo de respecter ses engagements internationaux en la matière, puisque la République démocratique du Congo a ratifié la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ainsi que la Convention de l'EUA de 1969 gouvernant les aspects spécifiques des réfugiés en Afrique.
Olivier Baird, Radio Capi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Commençons par cette nomination au niveau de l'ONU. Les Togolais Gilbert Ugbo, président du Fonds international de développement agricole FIDA, a été nommé le 18 septembre dernier président de l'ONU Haut par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. ONU Haut est le dispositif de coordination de l'ONU dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Dans son rôle de président, M. Ugbo dirigera l'action menée pour unir et faire fructifier les efforts des organismes et institutions des Nations Unies et d'autres organisations internationales dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Monsieur Ugbo est né dans une zone rurale du Togo et y a grandi. Pendant plus de 30 ans, il s'est employé à améliorer le sort des populations parmi les plus vulnérables au monde. Il a une vaste expérience de la politique, du développement international, de la diplomatie et de la gestion financière. Il est devenu président du FIDA le 1er avril 2017. La MONUSCO, un soutien aux réfugiés burundais à Kamanyola. Il s'agit d'un soutien de première urgence suite aux affrontements mortels qui ont eu lieu vendredi 15 septembre. Outre le premier secours, la mission a distribué de la nourriture et de l'eau. Elle a aussi assuré la protection de quelques 1500 réfugiés rassemblés à l'extérieur de la base de la MONUSCO. Pour rappel, au lendemain des affrontements de la mission et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR ont déployé des équipes sur le terrain pour aider et évacuer les blessés. Le HCR ayant fourni également des conseils psychosociaux. Enfin, cette bonne nouvelle, des avancées significatives enregistrées dans le mouvement retour des populations dans le Kasaï. C'est le constat fait après une série d'émissions d'évaluation des acteurs humanitaires dans la région. Ces derniers ont noté le retour de 60 à 90% de la population dans certaines localités de province de la Lomami et du Kasaï. Des mouvements similaires ont été signalés lors des missions précédentes pour la partie urbaine du Kasaï central et les provinces de Sankuru et du Kasaï oriental. Ce retour résulte de la relative accalmie sécuritaire dans le milieu d'origine et des conditions précaires dans le lieu de déplacement, précise Ocha.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
7 millions d'enfants affectés par la crise dans le Kasaï, des écoles et centres de santé pillés ou brûlés, au moins 14 000 enfants victimes de malnutrition chronique aiguë, c'est le bilan sombre que présente l'UNICEF. Quelle réponse cette agence et ses partenaires apportent-ils pour sauver des milliers d'enfants? Pour en parler, Maguen reçoit Yves Villemont, chef de communication à l'UNICEF RDC. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Yves Villemont, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation actuelle en ce qui concerne les enfants dans le Kasaï?
La situation des enfants dans le Kasaï reste préoccupante. La violence qui a sévi dans la région du Kasaï est une violence qui a fortement affecté les enfants, dans le sens où nous savons qu'il y a des enfants qui ont été directement victimes de la violence parce qu'ils ont été impliqués dans le conflit directement, parce qu'ils ont été également victimes directement de la violence, mais également parce que la violence a créé dans leur communauté un environnement qui les a obligés à fuir avec leurs parents, avec leur famille, dans la brousse souvent, pour des périodes qui parfois atteignent 3, 4, 5 mois. Il y a, tout comme dans la réponse humanitaire, également un aspect lié à l'éducation. L'éducation où nous venons, aux côtés du gouvernement, de mettre en place un programme de back to school pour stimuler la rentrée scolaire pour les enfants du Kasaï. Une rentrée scolaire qui se fait comme on essaie de le faire à travers le pays tout entier, mais avec une attention particulière au Kasaï pour les enfants les plus vulnérables qui n'ont pas pu poursuivre leur éducation. Nous estimons qu'il y a 440 000 enfants qui l'année dernière n'ont pas pu clôturer correctement leur année scolaire, donc qui ont un retard qu'on a pu rétablir avec des cours de rattrapage. Nous avons aussi appuyé en tant qu'UNICEF des examens pour les enfants en fin du primaire l'année dernière pour que ces enfants puissent être prêts à la reprise scolaire cette année. Donc cette année, nous avons mis en place un programme particulier dans le cadre du Back to School qui a comme ambition de garantir qu'il y ait un appui pour 150 000 enfants qui pourront reprendre l'école et pour qui un soutien scolaire d'urgence était nécessaire.
Pendant cette crise, qu'est-ce que l'UNICEF a apporté concrètement?
Concrètement, au niveau de ce programme de reprise scolaire, nous avons d'une part mis en place un programme de sensibilisation au niveau des communautés pour qu'ils soient sécurisés et rassurés assurer au niveau de la sécurité quant au retour de l'école. Dans ce contexte, on a travaillé avec des partenaires au niveau de la sensibilisation des communautés au niveau du risque des mines qui peuvent être laissées dans le cadre des combats. D'autre part, on a distribué, on est toujours en train de distribuer du matériel scolaire pour les enfants les plus défavorisés. Et nous avons également appuyé un programme de formation d'enseignants pour plus de 2750 enseignants au niveau de l'éducation à la paix et au niveau du soutien psychosocial.
Il faut dire que pendant la crise, les enfants ont des traumatismes sur le plan psychologique. Est-ce seulement engager les enseignants, c'est suffisant?
Non, c'est pas suffisant, mais c'est un pas très très important. Le pas le plus important au niveau de la prévention des traumatismes et du traitement, je dirais, des traumatismes, consiste à replacer l'enfant dans une vie plus ou moins normale. Et une vie plus ou moins normale pour un enfant, ça veut dire être au sein de sa famille, ça veut dire pouvoir retourner à l'école, être en interaction avec d'autres enfants. Et pour cela, il est important que les enseignants soient également formés pour qu'ils puissent avoir la connaissance nécessaire pour que les enfants soient encouragés.
Yves, autre aspect de la crise qui se vit maintenant dans les Kassai, c'est la nutrition pour les enfants. Et qu'est-ce que l'UNICEF a fait là-dessus?
C'est un problème très très important et c'est un problème dont je crains constater aussi l'impact à moyen terme et à plus long terme. Le Kassai est une région qui vit une situation de malnutrition chronique déjà plus importante que d'autres régions du pays, avec des taux de malnutrition chronique qui dépassent les 50%. Donc, et nous craignons qu'au niveau du Kassai, on puisse être confronté à un nombre très très élevé d'enfants en malnutrition chronique. On parle de plus de 400 000 enfants qui pourraient tomber dans une situation de malnutrition sévère et aiguë. Dans ce contexte-là, ce qui est important, c'est de s'assurer que dans les communautés, il y ait une prise en charge qui soit garantie. Et donc, c'est une de nos priorités au niveau de la réponse que nous mettons en place dans les régions qui sont stabilisées, c'est de s'assurer que là où les services de santé reprennent, on ait également cette capacité de prise en charge d'enfants en situation de malnutrition sévère aiguë par le biais du traitement thérapeutique qui permet à tout enfant qui est en situation de malnutrition sévère aiguë de se refaire une santé et de reprendre le bon chemin. Et c'est ce que nous pouvons constater dans les opérations que nous menons aujourd'hui, où on a des milliers d'enfants qui, aujourd'hui, sortant de la brousse, ont pu être pris en charge et aujourd'hui sont en bonne santé. N'oublions pas qu'il y a aussi le travail plus communautaire à faire de prévention de la malnutrition avec la promotion de l'allaitement maternel, etc.
C'est un travail colossal. Est-ce que l'UNICEF travaille avec certains partenaires?
Oui, bien sûr. C'est un travail que nous devons faire en partenariat. Plusieurs acteurs qui interviennent. Ce qui est également important et nous y attachons énormément d'attention, c'est qu'il y ait une bonne coordination et de plusieurs clusters de coordination dans différents secteurs tels que l'eau, l'assainissement, la protection et la nutrition.
L'autre aspect de la crise, c'est la protection des enfants. On sait que beaucoup d'enfants ont été enrôlés par les milices et dans les Kassai pendant les affrontements avec les forces de sécurité. Aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce qu'il y a des efforts aussi qui ont été faits par l'UNICEF pour que ces enfants retrouvent leur famille?
C'est également important en effet de souligner qu'un nombre conséquent d'enfants se retrouvent ou se sont retrouvés au sein des milices. Nous n'avons pas de chiffres exacts en termes de chiffres absolus, mais au niveau du cluster protection, nous estimons que 40 à 60% des miliciens sont des mineurs d'âge, dont certains n'ont même pas 15 ans. Donc c'est une situation particulièrement préoccupante. Nous en appelons à tous les acteurs, dans ce cas-ci aux milices, à libérer ces enfants, à arrêter l'utilisation et le recrutement d'enfants, parce que nous estimons qu'un enfant n'a pas une place au sein d'une milice, qu'il a une place au sein de sa famille, au sein de l'école et non pas au sein d'une milice. Et heureusement, nombreux sont ces enfants qui sont sortis des milices, de leur propre gré ou suite à des circonstances. Nous essayons de mettre en place des programmes de réintégration dans leur communauté d'origine.
Quels sont ces programmes?
Certains enfants peuvent être envoyés directement dans leur communauté parce qu'on connaît leur origine. Certains enfants ont pu retrouver l'école. Et pour des enfants qui ont plus de difficultés à être intégrés, parce qu'ils ont séjourné d'une manière plus longue au sein des milices ou parce qu'on ne connaît pas leur communauté d'origine nécessairement, on a mis en place des centres de transit et d'orientation où nous prenons en charge avec des partenaires ONG ces enfants-là. On leur redonne confiance, on les prépare plutôt au retour dans la communauté et dans les écoles. Et ce qu'on a pu constater dans tout le travail qu'on fait avec ces enfants-là, les conversations qu'on a avec eux, c'est que même s'ils ont vécu des expériences qui sont très traumatiques, qui sont extrêmes, tous expriment un seul souhait, et c'est de tourner la page, de regarder vers l'avenir et de reprendre le chemin de l'école. C'est quelque chose qui est très très marquant.
Ça, c'est un souhait, mais vous savez qu'il se tient à Kananga la conférence pour la paix et le développement du Grand Kasaï. Est-ce que vous avez un message et quelque chose à dire aux populations du Kasaï qui nous suivent pour l'instant, notamment en ce qui concerne le soutien qu'apporte l'UNICEF et ses partenaires?
L'appel qu'on a, c'est un appel qui réside à rétablir la paix le plus rapidement possible dans le Kasaï, parce que ce n'est que la paix durable qui peut garantir d'une manière durable à ce que les enfants puissent retrouver une vie plus ou moins normale et avoir leurs droits à nouveau respectés.
Yves Virmont, je vous remercie.
Nous l'avons dit plus haut, la Journée internationale de la paix a été célébrée également dans le province, notamment dans le Tanganyika. C'est à Kongolo, à plus ou moins 370 km de Kalemie, que le gouvernement provincial et la MONUSCO ont organisé le mercredi 20 septembre, donc à la veille, les manifestations officielles de cette journée. Expedi Mwamba Mubi était de la partie, suivez son reportage.
Il y avait du monde et de l'ambiance au stade Ngoï Pierre de Kongolo pour célébrer la Journée internationale de la paix ensemble avec une délégation du gouvernement provincial du Tanganyika et celle du bureau de la MONUSCO Kalemie. Kongolo a été choisi comme modèle de cohabitation pacifique. Ici, pas de conflit entre Twa et Bantou. Tianga Ramazani, administrateur de territoire.
Si le territoire de Kongolo a été épargné de ces barbaries intercommunautaires, c'est avant tout par la grâce de notre Dieu. C'est aussi par les efforts conjugués de toutes les forces vives du territoire.
Délégué du gouverneur du Tanganyika, la ministre provinciale du Genre et Affaires sociales reconnaît toutefois que, quoique épargné du conflit intercommunautaire, le territoire de Kongolo a malgré tout subi des conséquences. Madame Virginie Nkoulou.
Les conflits n'ont pas touché le territoire de Kongolo. Celle-ci a néanmoins vu les conséquences en termes de déplacés.
Le chef de bureau de la MONUSCO Kalemie a quant à lui traduit en swahili le message du secrétaire général de l'ONU. De retour de Kongolo à Kalemie, Expedi Mwamba Mubi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Le soldat de la MONUSCO serait-il en train de tourner les pouces? Suivez cette question ainsi que la réponse du chef d'état-major adjoint de la force onusienne, le général Comins.
Moi, c'est M. Papi Okito, éditeur du journal Écho d'Opinion. Mon général, je ne sais pas si on peut encore se répéter sur les questions qu'on a toujours posées. C'est par rapport aux militaires de la MONUSCO qui sont jusque-là, comme ils sont en temps de paix ici en RDC, alors que les groupes sont en train de semer la terreur dans des villages. Et ils sont toujours dans des villes, hormis peut-être à Beni, où les Tanzaniens sont en train d'appuyer un tout petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la RDC a encore besoin vraiment de militaires de la MONUSCO?
Le fait que nous ayons perdu un soldat tanzanien cette semaine, alors qu'il se portait au secours de nos partenaires militaires congolais qui étaient attaqués par un mouvement armé, prouve, je crois, que nous sommes loin d'être dans une situation où nous nous contentons d'observer ce qui se passe. Donc je ne peux pas souscrire, je dirais, à l'analyse que vous en avez faite. Je dois dire également que vous ne le voyez pas, parce que c'est le travail quotidien que nous faisons dans bien des cas, dans bien des circonstances, grâce au réseau d'alerte qui existe, grâce aux appels que nous recevons, soit de représentants de la société civile, soit de nos partenaires militaires congolais, soit d'autres. Nous avons tous les jours, des unités qui quittent précipitamment leur base pour aller se porter au-devant d'une situation potentiellement dangereuse où nous risquons d'avoir des civils tués dans des affrontements interethniques. Et donc, ce sont des choses que nous ne voyons pas, puisque nous ne communiquons pas, je dirais, sur toutes ces actions que nous faisons au quotidien. C'est toujours très difficile de mettre en valeur ce qui se passe bien. Et je comprends qu'on puisse regarder plus aisément ce qui semble ne pas bien marcher. Et donc, je répète, la MONUSCO a une mission ici. Nous la remplissons conformément au mandat qui nous a été confié. Et nous regrettons, et je salue la mémoire de ce soldat qui est mort dans l'exécution de ce mandat cette semaine.
magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis UN Paul Lama Marie-Jeanne. Je suis officier de liaison des deux contingents de police constituée auprès des Nations Unies. Je suis leur team leader. Je suis mariée, j'ai deux enfants, une fille et un garçon. Je suis de la Guinée-Conakry. Avant de vous parler de mon parcours à la MONUSCO, j'aimerais d'abord faire en quelques lignes le briefing sur mon parcours dans mon pays. Je suis officier de police au grade lieutenant à la police nationale guinéenne. Et de 2003 jusqu'en 2004, j'ai fait ma formation commune de base, que nous appelons CAT1. Et à la sortie de l'école, j'ai été affectée à l'Office central antidrogue pour lutter contre la drogue et la criminalité. Et en 2006, j'ai été affectée à la CMIS, que nous appelons Compagnie mobile d'intervention et de la sécurité. Et en 2008, j'ai été envoyée au port en détachement, au compte de la CMIS, toujours comme coordinatrice générale des brigades, au port autonome de Conakry. Et depuis 2012, j'ai commencé mes premiers pas au sein des Nations Unies. Mars 2012, j'étais déjà dans les classes d'induction training du système des Nations Unies. Et après toutes les formalités des Nations Unies, j'ai été déployée comme formatrice et conseillère auprès de la PNC, d'où j'ai fait 6 mois. Et de là, par un concours, bien sûr, un poste qui a été ouvert sur le poste des officiers de liaison, j'ai été retenue sur 7 femmes pour aller être l'officier de liaison de l'unité Bangladeshi en RDC. Et en ce moment, elles étaient constituées seulement que de femmes. Et en mars 2014, j'ai mis fin à ma mission parce que c'était un contrat de 2 ans qui m'avait envoyé et je suis retournée au pays. J'ai rejoint les rangs pendant 1 an 5 mois et août 2016, je suis revenue dans la mission jusqu'à nos jours. Et depuis que je suis là, je suis team leader des deux contingents, Égypte FPU et Ban FPU. Donc voici en quelques mots mes premiers pas aux Nations Unies. Maintenant, les fonctions que j'occupe ici, comme je le disais dès le départ, je suis team leader des deux unités constituées qui s'occupent de la patrouille, de la sécurisation du système des Nations Unies et leur personnel et surtout la protection de la population congolaise. Ça, c'est un peu en quelques lignes le travail journalier que nous avons. Et des fois, nous avons des formations, des exercices conjoints avec la PNC qui sont à Kinshasa un peu rares, c'est vrai. Mais il arrive que nous le fassions quand même. Ben, si je parle un peu de temps libre, à mission, pratiquement, j'ai pas de temps libre parce que les UNPOL, nous travaillons 7 sur 7, 24 sur 24. Mais nous avons des congés quand même que peut-être je pourrais nommer ici comme temps libre. Et ces temps libres-là, je les utilise souvent pour mes enfants et mon mari. Et en ce temps-là, j'oublie tout ce qui est tenue, tout ce qui est arme, tout ce qui est quoi. Je suis une femme normale, une femme de foyer. Je ne fais que m'occuper de mon mari et de mes enfants. Je me dois le devoir de faire plus parce qu'ils acceptent mon absence dans la famille sans problème. Les quelques préférences que j'ai, par exemple dans la musique, souvent j'aime pas peut-être que je suis guinéenne, mais j'aime bien les musiques guinéennes et les musiques douces. Dans le sport, depuis l'enfance, je pratique le football jusqu'à nos jours. J'aime bien la nourriture congolaise, surtout le chikwank. Je le préfère avec du tabac, que je mange presque 2 fois par semaine. Ben, mes projets après les Nations Unies, tout d'abord je vais rejoindre mes rangs parce que je ne suis qu'à 14 ans de service, donc je suis très loin de la retraite. Je rejoins les rangs dans mon unité d'origine et continue à m'occuper de ma petite famille. Et pour finir, je voudrais prononcer quelques mots parce qu'après 4 ans en RDC, je me dois le devoir de parler 2-3 mots en lingala. Mbote na bino, na lingi, bino, mingi, bana ya Congo.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Le HCR RDC accueille cette semaine la visite de la princesse de Monaco. Lors de cette visite, il est prévu le lancement par cette hôte de marque d'un projet de toilettes pour femmes au camp des réfugiés centrafricains des Inké dans le nord Ubangi. 26 septembre, journée mondiale du cœur, et le 27 septembre, journée internationale des mobilisations contre la guerre et les occupations. Voilà, c'était un plaisir de vous présenter ce magazine mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Honoré Missenga était au reportage et à la réalisation sous la supervision de Jean-Pierre Elali Ikoko. Ce magazine vous était présenté par Nadine Foulantimba. Bon dimanche à tous.